vue d'ensemble de l'actualité.
No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous.
Trinville PM.
Alors, Donald Trump qui ne veut pas participer à un débat virtuel, donc est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'y aura pas d'autres débats entre les deux candidats à la présidence? On va en discuter avec Valérie Beaudoin, notre chercheur associée à la chère Raoul Dandurand, chroniqueuse au réseau Cogeco. Je ne sais plus s'il faut que je dise chroniqueur, chroniqueuse, chercheur, chercheuse. Valérie, aide-moi.
C'est chercheur, ça va, chroniqueuse, ça va aussi. Alors, c'était parfait.
Chroniqueuse? Non.
Et Luc Lavoie est toujours là, visiblement. Alors là, mes chers amis, d'abord, faisons le point sur le prochain débat présidentiel. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y en aura point? Valérie, d'abord?
Il devrait en avoir un parce qu'il y en a deux de prévus. Alors, le 15, c'est lui qu'on dit que ça va être un débat virtuel. C'est celui-là que Trump dit refuser de faire. L'autre, c'est le 22 octobre. Donc, normalement, celui du 22 octobre serait en personne parce que le président, bon, serait plus contagieux en théorie.
Il serait sorti de sa quarantaine.
Exactement. Et là, le camp Trump a proposé autre chose au camp Biden. Le camp Biden a refusé. Ils ont proposé deux dates, le 22 et le 29 octobre, de tenir deux débats. Mais par contre, le camp Biden dit, écoutez, le 29 octobre, quand l'élection est le 3 novembre, c'est beaucoup trop serré. Mm-hmm. Déjà là que le débat le 22 octobre, c'est très près de l'élection. Alors, ils ont refusé aussi. Donc, on est quand même dans l'impasse. C'est le président qui dit que le soir du débat dit virtuel, il va tenir un rallye à la place. Là. Alors, il va sortir quand même de sa quarantaine.
Honnêtement, Luc, c'est pas dramatique. Moi, je pense que Biden, ça ferait probablement l'affaire de Biden s'il n'y avait plus de débat. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Compte tenu
pas,
de l'avance qu'il a.
Je ne suis pas sûr de ça, parce qu'écoute, le dernier débat, là, ça lui a donné un
swing.
Une poussée de 5-6 points.
Oui, hein? Mais justement, ouais. Tu es en avance, là, tu
ouais,
la joues.
Généralement, tu joues prudemment.
Ouais,
en fait.
Ouais.
Sauf que moi, je pense que dans tout ça, ça se passe dans une espèce de monde imaginaire. Je ne sais pas si vous avez vu Trump hier, il a enregistré un court vidéo. Là. L'avez-vous vu?
Non, je n'ai pas vu. Vas-y,
ben, écoute,
décris-nous-le. Là.
Ben, on sentait sa voix un peu marquée par la grippe.
Chevrotante?
Ouais, ben, pas chevrotante, mais un peu grippée surtout.
Ouais, OK.
Mais il y avait dans le visage sa joue gauche, attendez que je me rappelle, donc sa joue droite, gauche,
ouais.
Quand tu regardes à la télévision,
ouais.
Enflée, rouge. Moi, je pense qu'il est plus malade qu'on croit et qu'on est en train d'assister présentement à une espèce d'effondrement de l'exécutif américain. Écoute, ils sont tous atteints, pas tous, mais les plus importants le sont. Le président de la campagne, le gérant général, le grand patron de l'organisation, tu peux continuer, Stephen Miller, qui est l'idéologue de la Maison-Blanche, sa secrétaire de presse et trois de ses adjoints, et on continue comme ça. On est en train, je pense, d'assister à un total effondrement de ce régime-là.
Qu'est-ce que t'en penses, Valérie?
Ouais, ben je suis d'accord. Puis je pense que c'est assez particulier. Il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment, dont des chroniqueurs qui sont conservateurs aux États-Unis. Là, je pense à Ben Shapiro, qui est quand même bien connu, qui disait, écoutez, le président, c'est lui qui a à perdre à pas être là au prochain débat parce que justement, la dernière fois, ça lui a tellement nui qu'il devrait être là au débat du 15 pour se reprendre puis essayer de justement restreindre l'avance entre Biden et lui. Ce que je trouve aussi particulier, c'est que là, il commençait à peut-être marquer des points. On pensait moins au président puis à ses déboires dans les débats avec ce qui s'est passé avec Mike Pence la veille. Mais là, on est déjà à parler dans un autre cycle de nouvelles, à parler d'autres choses. Ça aussi, je pense que c'est pas nécessairement bon pour le président Trump.
Mais en même temps, oui, si tu permets, Bernard, Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche, a envoyé des tweets qui étaient mais totalement délirants. Là.
Mm-hmm.
Il s'attaque directement à Mike Pompeo, son secrétaire d'État, son ministre des Affaires étrangères, un allié parmi les alliés. Il s'attaque également à Barr, William Barr, son ministre de la Justice.
Il est en train de perdre la boule?
Il est en train, à mon avis, de perdre le contrôle.
De paniquer, moi, je pense.
De paniquer et surtout, imagine, avant que tout ça se produise, on avait juste à utiliser l'expression « imaginer Trump sur les stéroïdes ». Ben, il l'est! C'est ça que ça donne! J'ai passé du temps hier à les lire, il en a envoyé une vingtaine hier. C'est pas possible. Comment ça se fait que Barr a pas mis du monde en prison parce qu'il y a eu une tentative de coup d'État qui impliquait Hillary Clinton, puis Barack Obama, puis Joe Biden? Écoute, c'est fou, là! C'est tellement cinglé que tu vois là qu'il a atteint un niveau où ça va pas du tout. Là.
Parlez-moi du débat d'hier. Kamala Harris contre Mike Pence. Qui a gagné, d'après vous, Valérie?
Je vais commencer par dire là, un peu face à ma réponse de la semaine dernière, là, c'est les électeurs qui ont gagné. Si on y va au niveau de la substance, qui a gagné? Ben écoute, je trouve que les deux sont restés dans leur position. Mike Pence est toujours fort en débat. Il a bien défendu les positions plus conservatrices. Je dirais qu'il était très fort sur les attaques du camp Biden, beaucoup plus fort que le président Trump l'a été la semaine dernière. Donc, il devrait prendre Trump un peu exemple sur son vice-président. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un à l'opposé. Hein. Mike Pence, il est calme, il est en contrôle et il est quand même capable de présenter ses idées. Kamala Harris, elle était bonne, elle était nerveuse par moments. J'ai trouvé qu'elle a eu des moments assez forts, notamment quand on parlait de la COVID-19. Et je voudrais faire entendre un extrait quand justement, parce qu'on parlait du débat cacophonique la semaine dernière, donc on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus, je vous dirais, plus posé. Oui, on a eu le droit à ça, mais il y a quand même eu quelques dépassements. Juste écoutez, là, ça spin depuis ce matin sur les réseaux sociaux, les réactions de Kamala Harris quand on veut l'interrompre.
Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year.
He said he's going to repeal the Trump tax cuts.
Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking.
Be important if you said the truth.
Donc, elle lui dit, écoute, je suis en train de parler. C'est assez fort.
J'ai vu ce moment-là. Moi, je ne l'ai pas beaucoup écouté, mais j'ai pris ce moment-là. Je l'ai trouvé excellent, Harris, quand elle a fait ça. Elle a imposé son autorité à Pence. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Luc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Ben, j'ai pensé que Pence était un meilleur debater, si tu permets l'expression, mais qu'il y avait un problème sérieux, c'était d'essayer de défendre l'indéfendable. Et Kamala Harris, je l'ai trouvée moins bonne que dans les débats des primaires démocrates. Elle était très évidemment nerveuse, Valérie l'a souligné.
Moi, je trouvais qu'elle faisait trop référence à Biden. Au lieu de m'emmener de s'affirmer, de parler pour elle-même, elle passait son temps à dire Joe a dit ça, Joe a pris tel engagement, Joe ci, Joe ça. Par moment, honnêtement, j'aurais voulu... parle au jeu, Kamala, là, moi, là, voici ce que je représente et ce que je propose comme vice-présidente.
Mais il y a une chose aussi, Bernard, il y a la question du langage corporel.
Oui.
T'sais, à un moment donné, il faut que tu baisses le volume pendant quelques minutes puis tu regardes aller. Elle était...
souriante.
Trop.
Ah oui?
Des fois, Pence était en train de dire quelque chose de quasi dramatique.
Ouais.
Puis elle avait un large sourire dans le genre, tu ris de lui ou tu trouves ça drôle? Donc ça dénotait sa nervosité puis c'est pas bien, bien bon.
Parlez-moi de la mouche.
Oui.
Honnêtement, la vedette du débat, c'est la mouche.
Écoute, la mouche, là, vraiment, juste pour les gens qui ont
pas vu ça. Mouche à quoi?
Je m'en prononce pas là-dessus, mais juste vous dire, visuellement parlant, là, Mike Pence, les gens qui l'ont vu, il a les cheveux très, très blancs, très lisses. Il y a une mouche noire qui se pose sur ses cheveux en plein milieu du débat quand il est en train de parler. Et là, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais ça le fait le buzz sur le web. Ça avait aucun sens.
Ça a duré combien de temps, la mouche
deux
est restée posée?
Deux minutes, un petit peu plus que deux minutes.
Elle bougeait pas, la mouche? Elle bougeait pas?
Non, elle restait là.
Puis ça n'apercevait pas.
Ben non, mais là.
Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est comment on a repris ça du côté du camp Biden et rapidement. Écoutez, on vend déjà une tapette à mouche à 10 $ avec un slogan incluant le mot fly sur le site de Joe Biden. On a tweeté aussi Joe Biden avec une tapette à mouche qui dit donnez-moi 5 $ si vous voulez que ma campagne s'envole, ma campagne fly. Il y a même un site internet flywillvote.com. Ils ont acheté le domaine quand ils ont vu ça. Donc vraiment, l'équipe là, de tout ce qui est web, de tout ce qui est digital pour Biden, chapeau, parce qu'ils ont vraiment bien repris ça.
Et en fait, Bernard, c'est ce qui va rester de ce débat-là. Tu vois, Pence n'a pas nuit à Trump, puis Kamala Harris, je ne pense pas qu'elle a fait bouger l'aiguille, elle non plus. Qu'est-ce qui va nous rester de ce débat-là quand on va en parler dans 6 mois, dans 2 ans? La mouche dans les cheveux de Pence.
Oui. Quelqu'un m'a dit, c'était une mouche à fruits. Un auditeur m'écrit, une mouche à fruits.
Non, c'était plus gros qu'une mouche.
Oui.
C'était une mouche à M.
Oui. Ouais, ben c'est évidemment ceux qui aiment pas les républicains et qui aiment pas Pence aiment bien le penser. Alors là,
une nouvelle que j'adore que le New York Times sort à l'instant.
C'est quoi?
Ce qu'on a injecté à Trump, les médicaments.
C'est une vraie nouvelle, ça là?
Oui. Les médicaments qu'on lui a injectés et qui étaient expérimentaux, c'est-à-dire pas encore complètement autorisés. C'est à partir de cellules souches. Les cellules souches, c'est un de ses combats. Il s'oppose à l'utilisation des cellules souches parce que ça fait plaisir aux conservateurs qui y voient une forme de vie.
Ah ouais, hein?
Il avait oublié de nous le dire.
Ah, le crapaud. OK, ben merci Valérie Beaudoin d'être là.
Ça me fait plaisir.
Luc, on se reparle demain, mon cher Luc.
À demain, Bernard.
À demain. Alors là, vous vous amusez avec la mouche. Il y en a qui me disent c'est une mouche à chevreuil. D'autres qui me disent c'est un drone. Un drone, oui, écoute. Je sais pas, hein, ils ont-tu injecté la mouche? Si la mouche était un drone, est-ce qu'elle aurait injecté quelque chose dans le cerveau du vice-président? Hein? C'est ça, là. Ça fait partie du complot. OK, on s'en va à la pause. Au retour, un peu de positif dans la recherche là, d'un médicament contre le virus. Le docteur Tardif de l'Institut de cardio va être avec nous pour nous donner des nouvelles là, sur la colchicine dans un instant.